Midi 13h, ravie de vous rencontrer. Sophie Davant sur M Radio.
Bonjour à tous, je prends des risques aujourd'hui en recevant l'humoriste le plus corrosif, le plus politiquement incorrect de l'Hexagone. Avec plus de 300 000 spectateurs en salle, son spectacle, le premier du genre sur la guerre, vend deux pièces à Beyrouth, élu spectacle de l'année, a créé l'événement en propulsant mon invité dans le top 5 des humoristes les plus vus sur scène. Il pratique l'humour noir et dénonce des thèmes de société qui dérangent ou sont considérés comme tabous. L'obésité, le suicide, le racisme, la xénophobie, la misogynie, l'extrémisme religieux, la guerre, la misère sociale, le milieu carcéral et d'autres formes de discrimination. Je suis ravie de rencontrer Jérémy Ferrari, l'homme le plus corrosif de l'Hexagone, mais qui se cache derrière l'humoriste, on va le découvrir. Je reçois aujourd'hui le producteur, éditeur et distributeur indépendant qui vient nous proposer un double DVD de son spectacle, plus un documentaire emporté par la fougue. Un documentaire sur votre parcours. Jérémy, bonjour, merci d'être là.
Mais bonjour.
C'est important pour vous d'être un producteur indépendant ?
Disons que ça s'est fait vraiment au fur et à mesure, c'était pas une volonté de départ. Il se trouve que la première production avec laquelle j'ai travaillé, j'étais pas toujours d'accord avec leur choix, donc j'ai monté une société de production. Ensuite, j'étais pas forcément d'accord avec les choix des distributeurs de DVD, éditeurs, donc j'ai monté une maison d'édition. Enfin voilà, ça se fait, toutes les activités que j'ai à côté de mon travail d'humoriste, ça s'est fait juste parce que je voulais faire les choses moi-même. Je dis pas que je l'ai fait mieux, mais en tout cas, au moins, je suis pas déçu et je préfère faire les choses seul.
C'est un peu votre truc de pas être forcément d'accord, non ?
Ça, voilà, c'est vrai que c'est un petit peu mon truc de pas être forcément d'accord. Et puis parce que ça me permet aussi de faire des choses au prix que je veux. Moi, je suis très sensible au fait que la culture puisse vraiment être accessible à tous. Et c'est vrai que plus vous avez d'intervenants, plus c'est compliqué de faire des prix accessibles parce qu'il faut payer tout le monde. Et en faisant les choses plus tout seul, eh bien, je diminue les intervenants et je peux réduire les coûts.
Alors, le prix du DVD ?
Le prix du DVD est à 9,99€. Donc là, j'ai réussi à faire fort quand même.
Alors, votre travail d'humoriste est vraiment très intéressant. Moi, je suis très admirative de ce que vous faites. C'est très documenté et drôle et gonflé, osé, audacieux. On va en parler, bien sûr, en détail. Et puis, on va essayer de mieux vous connaître en revenant sur les rencontres qui ont marqué votre vie. Vous avez choisi un titre musical pour commencer, Big Flo et Oli, Dommage. Pourquoi ce choix ?
Parce que j'aime beaucoup ce groupe, c'est ma petite cousine, je commence à être vieux maintenant, c'est ma petite cousine de 18 ans qui m'a fait connaître Big Flo et Oli. J'aime beaucoup le rap de manière générale, mais j'aime bien ces deux-là. Je trouve qu'ils écrivent très bien, je trouve que c'est une belle leçon et je trouve que c'est un beau message qui passe.
Les messages importants pour vous, on va en reparler. Big Flo et Oli sur M Radio.
Midi 13h, ravie de vous rencontrer. Sophie Davant sur M Radio.
Et je suis ravie de rencontrer aujourd'hui sur M Radio Jérémy Ferrari, l'humoriste. Humoriste qui délivre pas mal de messages dans ses spectacles et qui... vous avez une devise, hein, Jérémy, le savoir et le pouvoir. Vous avez l'habitude de travailler un spectacle très documenté, notamment le dernier sur la guerre. Vous avez travaillé avec un prof de géopolitique, un prof de la Sorbonne. C'est pas commun comme démarche, ça ?
Non, après c'était obligatoire parce que j'ai arrêté les cours très jeune. Moi, j'ai même pas le bac, hein, donc j'ai arrêté l'école à 16 ans. Donc du coup, quand on va sur des sujets comme la géopolitique, il fallait quand même que je me remette à des bases juste de géographie et d'histoire. Ensuite, je me suis perfectionné, mais au départ, j'ai démarré au niveau 3e, quoi, à peu près. Et oui, c'est important pour moi d'être documenté parce qu'il faut pas dire de bêtises aux gens. Je crois que les gens souffrent beaucoup de la désinformation, de moins en moins confiance dans les journalistes, dans les hommes politiques, etc. Donc j'essaye de savoir ce que je dis. Alors effectivement, je pense que le pouvoir, c'est le savoir. Je crois que l'information est trop diluée, trop difficile d'accès, donc j'essaye de le rendre accessible.
Alors, vous revenez sur votre enfance, pas beaucoup d'études. Vous êtes né dans les Ardennes, à Charleville-Mézières, des parents commerçants de proximité, comme on dit, dans l'alimentation.
C'est ça.
Vous en parlez d'ailleurs dans votre dernier spectacle. Vous dites que ils étaient pauvres. Évidemment, c'est un trait d'humour, j'imagine. Et vous dites que vous leur avez acheté une maison.
Je viens d'une famille, relativement modeste, on va dire. Mes parents avaient un petit commerce dans un quartier populaire de Charleville-Mézières. Charleville, c'est une ville qui est compliquée économiquement. C'est une des villes les plus pauvres de France. Elle est fort, fort, fort touchée par le chômage. Donc j'ai grandi dans vraiment au cœur du du peuple, vraiment, et j'en suis très fier parce que je peux, moi, dire qu'il n'y a pas que les clichés qu'on peut voir à la télévision dans les quartiers populaires, il n'y a pas que de la violence et de la drogue, il y a aussi des gens très courageux, des gens qui veulent s'en sortir, etc. Et il y a aussi des gens qui profitent du système et des gens qui sont vraiment écrasés par le système. Donc moi, je casse tout ce qui est un peu manichéen. Dès qu'on va trop dans le blanc ou dans le noir, ça me gêne beaucoup parce que souvent, la vérité, c'est plutôt la mesure.
Alors, votre choix, Claude François, Alexandrie, Alexandra. Étonnant, alors là ça m'étonne que vous ayez choisi ces titres-là.
Parce que ma mère adore Claude François.
Ah.
Et à cause d'elle, j'adore Claude François.
Et elle s'appelle comment, votre mère?
Ma mère s'appelle Muriel.
Muriel.
Elle adore,
donc on embrasse Muriel. Pour Muriel, spéciale dédicace. Ouais, Claude François, cool. Jérémy Ferrari sur M Radio.
Ravi de vous rencontrer. Le samedi sur M Radio, c'est Sophie Davant.
Et mon invité ce matin, Jérémy Ferrari, qui vient nous parler de son dernier spectacle, puisque il nous propose un DVD plus un documentaire à 9,99€. Alors, si je vous dis Bruno Nion, c'est une rencontre importante pour vous, puisque vous avez commencé à faire du théâtre avec lui à Charleville-Mézières.
Ouais, c'est une rencontre très importante, parce que donc à l'école, ça se passait effectivement pas très bien, donc je séchais beaucoup les cours, et j'allais jouer aux échecs dans un bar avec des gens un peu âgés. L'après-midi, des fois au lieu d'aller en cours, et en face il y avait le théâtre de Charleville-Mézières dans lequel se trouvait Bruno Nion. Alors Bruno Nion, je le savais pas moi à l'époque, est un grand professeur de théâtre qui était venu en fait faire plus ou moins sa retraite en s'occupant de ce théâtre qui était un petit peu à l'abandon, et il a relancé totalement la culture dans ma ville, puisque quand il est arrivé par exemple au théâtre, il y avait genre 200 abonnés, quand il en est parti il y en avait pratiquement 2000, donc c'est vraiment quelqu'un qui avait cette passion du théâtre et qui avait monté un cours de théâtre totalement gratuit. J'ai commencé vraiment avec lui et c'est lui qui a même convaincu mes parents, donc c'est pour ça que c'était important, parce que quand moi j'ai voulu partir à Paris à 17 ans, arrêter les cours, pour mes parents ça semblait très loin, tout d'un coup arrêter l'école, partir à Paris pour faire du théâtre, j'avais même pas le
Donc là, c'était le cours Florent.
C'était pour aller rentrer au cours Florent. Et c'est Bruno qui a convaincu mes parents et qui a pris quand même un risque. Parce qu'il a dit, vous pouvez le laisser partir, il y arrivera.
Vous êtes parti à Paris, puis après vous avez joué une pièce, Deux chaises vides, hein, où vous avez interprété le rôle d'Arthur Rimbaud.
Quand on fait du one man, on a du mal, bizarrement, à jouer dans des pièces ou dans des films. Parce que les réalisateurs...
Mais vous faisiez déjà du one man,
ouais,
avant de faire cette pièce-là.
Je faisais déjà du one et puis on me proposait, j'avais vraiment du mal à trouver du taf à côté, et puis il se trouve que Arthur Rimbaud est de ma ville et que Bruno montait cette pièce qui est d'un auteur qui s'appelle Bertrand Mathieu, qui est un peu le traducteur le plus connu aux États-Unis d'Arthur Rimbaud, et il a imaginé cette rencontre entre Van Gogh et Rimbaud, parce que quand Rimbaud arrive à Londres à 19 ans, il habite dans une rue où Van Gogh habite, et à vraiment à la même distance entre les deux appartements il y a un bar, et comme les deux partageaient l'amour de l'alcool, on imagine qu'ils ont dû se rencontrer. Et comme les deux étaient à des moments de leur vie très différents, Bertrand a imaginé donc cette pièce et cette rencontre et ce dialogue entre les deux.
Vous avez choisi Michel Polnareff, Lettre à France.
Ouais, j'aime beaucoup Michel Polnareff.
Et Lettre à France, ça a peut-être une signification particulière aujourd'hui?
Je ne sais pas si ça a une signification
particulière. Vous lui diriez quoi à la France aujourd'hui?
Mais moi, je lui dirais de continuer à pas être d'accord, de continuer à remettre en question les choses et de continuer à mettre en doute quand elle-même a des doutes. Je pense que c'est ça la démocratie. Je pense que c'est le droit de dire on n'est pas d'accord, le droit de dire on n'est pas sûr, le droit de dire on s'est trompé.
Lettre à France, Michel Polnareff, c'est le choix de Jérémy Ferrari sur M Radio.
Midi 13h, ravi de vous rencontrer. Sophie Davant sur M Radio.
Avec Jérémy Ferrari aujourd'hui sur M Radio, j'essaie de mieux le découvrir à travers les rencontres importantes de sa vie. Jérémy, on revient sur ce parcours d'humoriste, d'homme de théâtre. Ça n'a pas toujours été simple pour vous, difficile de gagner votre vie à une époque, obligé de faire plein de petits boulots qui, j'imagine, vous ont construit, vous ont formé. Vous avez même été prof de jiu-jitsu.
C'est ça, vous l'avez bien prononcé.
Vous avez appris les arts martiaux grâce à votre père.
Oui.
J'imagine que ça apprend beaucoup sur la vie.
Mon père considérait qu'un garçon devait savoir se défendre, alors il m'a laissé le choix. J'ai fait plein d'arts martiaux différents, et puis j'ai commencé par le kung-fu, et puis après très vite je me suis mis au judo, et puis après très vite au jiu-jitsu, et c'est devenu l'un des seuls diplômes que j'avais en fait. Donc quand je suis arrivé à Paris, le seul truc que je savais faire c'était les arts martiaux, parce que j'étais ceinture noire, etc. Donc j'ai commencé à donner des cours. J'ai fait beaucoup de de petits boulots, j'ai fait beaucoup de sécurité, j'ai fait beaucoup de choses comme ça, j'y arrivais pas. Donc c'est ça qui était compliqué, parce que je jouais tous les soirs, je louais moi-même les lieux avec les petits boulots que je chopais, et je faisais plein de castings. Enfin voilà, j'ai vraiment fait ce parcours laborieux des castings, des plateaux d'humour, etc. Et on me donnait vraiment pas du tout de boulot.
Laurent Ruquier, ça encore, c'est un nom qui a compté pour vous?
Ah ben ça a totalement changé ma vie. Pour le coup, c'est pas exagéré de dire ça. C'est que vraiment, quand j'ai rencontré Laurent, moi j'allais arrêter ce métier. Ça faisait presque 10 ans que j'étais à Paris, que je galérais. Mes parents entre-temps avaient perdu le magasin. Moi, je me retrouve à Paris, j'arrive pas à payer mon loyer. Je suis dans les parkings à faire de la sécu pour essayer de payer le loyer et le théâtre que je loue le soir, qui est vide. Hein. J'ai même dit en fait que j'allais arrêter. Il me restait 3 mois d'une programmation dans un théâtre et j'ai dit je fais ces 3 mois et j'arrête. Et à ce moment-là, l'émission de Demande qu'à en rire sur France 2 est lancée par Laurent Ruquier. Je veux pas y aller au début. Et puis il y a des gens de l'équipe de Laurent qui me repèrent et Laurent fait savoir à ces gens que ça serait bien que je vienne parce qu'il n'y a pas de représentant du monde noir dans l'émission et que je serais le bienvenu si j'y allais.
Donc Laurent Ruquier, c'est combien de sketchs que vous avez écrits pour cette émission? C'est énorme, je crois.
Je crois que j'en ai fait en solo, je crois que j'en ai fait à peu près 80. Après, j'en ai écrit beaucoup pour d'autres. Et puis après, j'ai écrit beaucoup de sketchs collectifs, etc. Mais donc, je pense qu'il y a un peu plus d'une centaine de sketchs. Mais officiellement, moi tout seul, je crois qu'il y en a à peu près 80. J'en faisais entre 1 et 2 par semaine.
Et ça reste un bon copain?
Ça reste un très très grand ami à moi. Ça reste un conseiller. C'est quelqu'un avec qui je continue de faire encore de la radio. J'ai fait beaucoup d'émissions de télévision avec lui. En fait, très vite, Laurent, après l'émission On ne demande qu'à en rire, très vite m'a invité en chroniqueur à la radio avec lui. Et depuis, en fait, pratiquement sur à chaque fois qu'il a une émission ou un truc, à chaque fois je participe.
Manu Chao, c'est votre choix, je ne t'aime plus, c'est vrai?
J'aime beaucoup Manu Chao. Je trouve qu'il a le don de chanter des choses tristes de manière très joyeuse.
Manu Chao sur M Radio.
Midi 13h, ravie de vous rencontrer. Sophie Davant sur M Radio.
Alors, plein de spectacles, le Ondar Show, bien sûr, grâce à Laurent Ruquier. Et là, le dernier, Vent de pièces à Beyrouth. On disait tout à l'heure que vous avez pris des cours d'arts martiaux, vous avez été professeur. C'est d'ailleurs le début de votre spectacle. Vous prenez carrément, c'est un spectacle interactif, hein, vous prenez quelqu'un dans la salle et vous, c'est assez drôle d'ailleurs. Vous disiez tout à l'heure que vous avez pris des cours de géopolitique, vous vous attaquez à la guerre carrément. Et le début du spectacle concerne les attentats terroristes au Bataclan en 2015. Donc l'idée, c'est comment se défendre. Là, vous seriez une proie sur scène.
Ouais. En fait, c'est vrai que j'ai écrit, donc je fais toujours des spectacles à thème. Donc effectivement, Alléluia Bordel, ça a été mon premier succès sur la religion. Le deuxième, c'était la géopolitique. Et pendant que je suis en train d'écrire Vent de pièces à Beyrouth, enfin, non, même pas, pendant que je suis en train de répéter Vent de pièces à Beyrouth, donc 3 mois plus après, c'est la première, il y a les attaques du Bataclan. Je suis moi-même encore meurtri par les événements, donc c'est très compliqué pour moi d'écrire à ce moment-là. Et je sais pas du tout comment traiter le sujet. Donc je me dis, je vais revenir à la base de ce que je fais.
Alors, donc tout le monde en prend pour son grade d'assaut. Bernard-Henri Lévy.
Oui, bah oui.
Charles Aznavour. Ouais. La misère serait...
moins pénible au soleil. Ouais. Mais Charles Aznavour, j'avais écrit la vanne avant
vous
que...
Vous dites qu'il n'est jamais allé au Soudan, c'est ça?
Je lui dis qu'il a écrit les paroles avant d'aller au Soudan.
Alors, l'Afrique, les dictateurs, les ONG.
Oui, les ONG aussi.
Honnêteté.
Bah oui, parce que les ONG... En fait, ça m'amuse de... J'aime pas ce qui est putassier. J'aime pas ce qui est misérabiliste. Il se trouve que pendant l'écriture du spectacle, alors c'est manque de chance pour Action contre la faim, c'est que je reçois une lettre d'Action contre la faim, mais avec une seringue, avec des enfants en photo en train de mourir. Je réponds pas à ce courrier. 3 semaines après, il m'en renvoie un autre et là il m'explique que j'ai pas envoyé 7 € et qu'il y a plein d'enfants qui sont morts. Et donc du coup je me dis c'est quand même vachement agressif comme méthode de récolte de dons et je trouve ça pas très honnête et pas très humain. Alors je me suis intéressé au compte d'Action contre la faim, entre autres, hein. Et il se trouve que j'ai décidé de les partager ces comptes avec les gens. C'est quand même intéressant de savoir ce qu'ils font de notre argent, puisqu'il faut pas seulement nous culpabiliser, il faut nous expliquer ce qu'on fait avec notre argent. Et puis après il se trouve que j'ai rencontré des employés d'Action contre la faim qui m'ont donné des documents inédits qui étaient jamais
sortis. En fait vous faites à chaque fois une véritable enquête de journaliste, hein. Vous vous documentez avec un prof de la Sorbonne, Jean-Antoine Duprat, et puis tout est très documenté. C'est-à-dire quand on parle des ONG, vous êtes en train de le raconter, vous avez enquêté.
J'essaie d'avoir des sources. Je ne donne pas mon avis, je donne que des faits. Au moins, si je dis une connerie, j'ajoute pas de l'eau au moulin à la haine ambiante.
On va en reparler. Vous avez choisi Stromae sur M Radio. Ave Césaria.
Ouais, parce que je trouve que Stromae est un des génies qu'on vient de découvrir dans ce siècle et qu'il faut le mettre en avant le plus possible.
Ravi de vous rencontrer. Le samedi sur M Radio, c'est Sophie Davant.
Et Jérémy Ferrari est mon invité aujourd'hui sur M Radio. On parle de ce dernier spectacle, Vente de pièces à Beyrouth. Vous nous proposez un DVD justement pour revoir ou voir ce spectacle qui contient en plus un documentaire emporté par la fougue sur votre parcours. On y voit quoi dans ce documentaire ?
Tout ce que j'ai jamais voulu montrer, ma famille, ma vie un peu plus personnelle, bien que j'en ai pas énormément, puisque 95% de ma vie consiste à travailler. Mais disons que j'ai fait confiance à quelqu'un qui s'appelle Thierry Colby, qui est le réalisateur de ce documentaire. C'est le premier qui m'a donné la possibilité, quand je suis sorti de On ne demande qu'à en rire, de faire d'autres émissions de télévision qu'On ne demande qu'à en rire, avec la parenthèse inattendue que j'avais fait avec Frédéric Lopez. Il avait été tellement bienveillant avec moi. Pas ça, ça c'est mieux pour toi, etc. Et donc j'avais confiance en lui, je savais que c'était quelqu'un qui n'était pas, encore une fois, putassier. Et il m'a proposé de faire ce documentaire sur moi, il m'a suivi pendant un an. Et pour une fois, j'ai accepté de ne rien regarder. Et en fait, je pensais pas qu'il allait aller autant sur l'humain. Je pensais qu'il allait se concentrer énormément sur le côté multiple de ma carrière, parce que je fais beaucoup beaucoup de choses en plus du one man. Alors effectivement, il y a ça dans le documentaire, mais il y a aussi toutes mes fragilités, mes failles, tout ce que j'évite de montrer, dont j'évite de parler normalement.
Vous l'avez joué à Beyrouth, votre spectacle ?
Non, parce qu'il y avait un comité de censure. J'ai été invité à jouer ce spectacle un peu partout dans le monde. Et généralement, les pays dans lesquels je ne suis pas allé, c'est parce qu'il y avait un comité de relecture, ce que je refuse, bien sûr.
Alors, il y a un moment particulièrement savoureux quand même dans ce spectacle. C'est la tête du pompiste qui voit débarquer les deux terroristes, les frères Pouachi. Alors là, je dois dire que...
Oui, parce que c'est
vraiment fait marrer.
Je me suis imaginé la tête de ce pompiste qui voit débarquer en pleine cavale les deux frères Kouachi qui s'arrêtent dans sa station service, qui achètent des sandwichs, qui payent et qui s'en vont. Moi, je me suis dit, mais comment ça se passe dans la tête de ce mec qui voit, c'est les deux frères Kouachi rentrer, qui achètent des sandwichs, qui payent et qui partent. Qu'est-ce qui s'est passé?
Donc, c'est vraiment irrésistible. Vous avez choisi Téléphone, J'irai à New York avec toi. Vous l'avez joué à New York, ce spectacle?
Non, je ne l'ai pas joué à New York. Je l'ai joué à San Francisco et je devais jouer à New York, à Washington. Je devais faire une petite tournée aux États-Unis et puis on n'a pas eu le temps, il y avait trop de dates, donc j'ai juste fait San Francisco, on a fait le Canada et j'ai pas eu le temps d'aller jouer à New York, mais je vais le faire avec le prochain spectacle.
Téléphone sur M Radio, c'est le choix de Jérémy Ferrari. J'irai à New York avec toi.
Ravi de vous rencontrer, Sophie Davant sur M Radio. Les 5 dernières questions.
Jérémy Ferrari, si vous aviez une baguette magique dans l'absolu, là, qui aimeriez-vous rencontrer?
J'aurais bien aimé rencontrer Johnny Hallyday. C'est quelqu'un qui fait partie de ces monuments que je suis triste de pas avoir eu la chance de rencontrer. Je l'ai croisé une ou deux fois.
Vous étiez
j'ai pas
fan?
Eu le temps. Je vais pas dire fan, mais on est tous quand même un peu fan dans le sens où on connaît un peu tout par cœur quand même. Donc,
vos parents étaient fans?
Ouais, mes parents aimaient beaucoup. Mon grand père aime beaucoup et moi j'aimais quand même beaucoup. Fan, je sais pas si je suis fan. Je crois que je suis fan de personne, vraiment fan au sens propre. Mais c'est quelqu'un que j'aurais bien aimé rencontrer. Ouais.
Qui aimeriez-vous retrouver parmi vos chers disparu?
Ma grand-mère me manque beaucoup. J'ai été élevé vraiment par ma tante, ma grand-mère et ma mère, donc ma grand-mère me manque. Ouais.
Vous partagez quoi avec elle?
Elle avait une lucidité en fait sur la vie qui me faisait du bien. Elle arrivait à voir les choses de manière extrêmement lucide, donc avec la dureté que ça comprend, tout en restant très positive. Elle
vous l'a transmise alors, cette lucidité?
Voilà, elle m'a transmis cette lucidité. Je suis un peu moins positif qu'elle et ça me manque parfois.
Quelle est la rencontre de votre vie?
Je crois que c'est quand même Michael Dion, qui est mon bras droit, qui est mon meilleur ami, qui est vraiment comme un frère pour moi, qui j'ai rencontré quand j'avais 17 ans au Jiu-Jitsu, qui maintenant est mon associé et ne m'a jamais trahi, ni déçu, ni jugé, ni culpabilisé en 17 ans.
Quelle est la plus belle rencontre avec vous-même?
Je crois que c'est la première fois que je suis monté sur scène, quand j'avais 16 ans. J'avais monté un spectacle avec Bruno Nion, justement le directeur du théâtre de Charleville. J'ai monté un spectacle d'une heure et demie sur scène, donc c'était la première fois que je montais j'étais programmé officiellement à la saison du théâtre et j'étais en train de reprendre un sketch de Pierre Palmade et à un moment donné, pendant que j'étais en train de jouer, je sais pas trop de quelle manière, mais j'ai mis ma main près de mon cou et j'ai senti que mon cœur battait tout doucement et je me suis dit, en fait, je suis beaucoup moins angoissé sur la scène que dans la vie. Je crois que j'avais jamais entendu mon cœur battre si lentement.
Si vous rencontriez le petit Jérémy, tout petit, 5-6 ans, vous lui diriez quoi ?
C'est marrant cette question que vous posez, parce que c'est un exercice que j'ai dû faire dans ma vie, souvent ça, imaginer ce que je lui dirais. Je lui dirais qu'il n'est pas seul, mais je lui dirais ça va aller.
Jérémy Ferrari était mon invité. Jérémy, on peut voir ou revoir votre spectacle dans un DVD à 9,99€. Puis là, vous êtes en train d'écrire votre nouveau spectacle. On est impatients car là, vous allez dénoncer tout ce qui vous irrite dans l'univers de la santé.
Ouais, alors là, c'est un bonheur. J'ai encore plus d'éléments que sur la géopolitique. La géopolitique, j'avais l'impression qu'à chaque fois que je soulevais une pierre, il y avait une fourmilière. Mais alors là, c'est pas des fourmilières, c'est des champs de... c'est que des tunnels infinis. À l'infini, c'est
formidable. Donc là, vous prenez des cours avec un chercheur.
Ouais, je prends des cours de médecine et je rencontre plein d'intervenants. C'est encore plus facile avec la médecine.
Merci d'avoir été mon invité sur M Radio.
Merci à vous.